Bonsoir, donc nous allons pour ce quatrième cours sur l'histoire de l'Église continuer notre pérégrination dans le livre des Actes des Apôtres et suivre Saint Paul et ses compagnons pour leur deuxième, troisième voyage missionnaire, puis le départ pour Rome. Alors, nous avons vu qu'après le synode de Jérusalem, Paul, Barnabé, Jude et Silas, à Antioche, ont expressément mandat pour rendre compte des décisions du synode concernant ce qui s'impose aux païens qui entraient dans la foi chrétienne. On se souvient que le synode avait réglé la question en rejetant l'idée d'imposer la circoncision, comme le réclamaient certains judéo-chrétiens de l'église de Jérusalem. Et c'est dit dans le discours de Pierre, d'ailleurs, à ce même synode, « Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. » Et « eux », ça désigne évidemment les pagano-chrétiens. Après quoi, donc, le texte des Actes nous en informe, commence le deuxième voyage missionnaire de saint Paul, dans les années 49-50, qui va durer 2 ans. Et cette fois, après avoir visité à nouveau brièvement la Galatie du Sud, qui correspond au territoire du sud de l'actuelle Turquie, Paul chemine vers la Galatie du Nord en annonçant l'Évangile et il va ensuite aller en Macédoine et en Grèce. Bon, il est bon hein, pour suivre pas à pas l'apôtre, d'avoir des cartes de ses voyages missionnaires. Ben, vous les trouvez hein, à peu près dans toutes les Bibles. Hein, à la fin des Bibles, vous avez des cartes des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Le deuxième voyage missionnaire de saint Paul est vraiment très très important. Les autres aussi, mais celui-là tout particulièrement. Donc, il visite la Galatie du Sud. Il va vers des églises qui ont été récemment fondées pour les affermir dans la foi. Et entre parenthèses, dans les Actes, Saint-Luc parle aussi des églises de Syrie et de Cilicie. Et donc, on va le voir aller successivement d'Antioche à Tarse, à Derbé, à Lystre, à Iconium. Et là, il va bifurquer. La logique aurait voulu qu'il monte en Bithynie et vers le pont, mais ça ne va pas se passer ainsi. Il va prendre une direction différente à celle qui a été initialement prévue. Et pourquoi ? Bien, le texte des Actes nous en informe. C'est sur une intervention divine que les choses vont se passer. Donc au chapitre 16, il est dit « Il se rendit ensuite, donc partant d'Antioche, hein, il a le mandat hein, de l'église d'Antioche pour entreprendre ce second voyage. À ce moment-là, il s'est séparé de Barnabé. Il y a eu une dispute entre Paul et Barnabas, donc, au sujet de Jean-Marc. Vous savez que Jean-Marc lui avait fait faux bond, si je peux me permettre l'expression, lors du premier voyage, et Paul ne veut pas le reprendre, ce Jean-Marc, pour le second voyage. Barnabas donc n'est pas d'accord, et les deux vont se séparer. Paul et Barnabas vont se séparer. Mais comme toujours, le Seigneur utilise ce genre d'événement pour en tirer un plus grand bien, et du coup ça va multiplier la mission, puisque Barnabas va se diriger vers Chypre. Alors il prend avec lui Silas, qui était l'un des délégués envoyés par l'église mère de Jérusalem auprès de l'église d'Antioche, et ils vont partir. Il est dit au chapitre 15, verset 40, « Paul choisit Silas et partit, confié par les frères, à la grâce du Seigneur. » Donc les frères en question, ce sont les frères de l'église d'Antioche. Alors, notons que Silas est comme Paul, citoyen romain, et qu'il était un personnage très honoré dans l'église mère de Jérusalem. Donc, dans un premier temps, ce voyage va consister à visiter des nouvelles églises qui avaient été fondées, pour les affermir dans la foi. Et comme je l'ai dit, il va se passer quelque chose. Au lieu d'aller en Bithynie et vers le pont, eh bien, les apôtres vont bifurquer en direction de la Macédoine. Alors au chapitre 16, il est dit justement, il se rendit ensuite à Derbé et à Lystre. On a vu ces églises fondées lors du premier voyage. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Alors, on pourrait penser que là, Paul transgresse en quelque sorte les attendus du synode de Jérusalem, que nous avons vu dans le cours précédent, mais il n'en est rien. C'est la circoncision de Timothée n'entre pas en contradiction avec ce qu'avait demandé le synode de Jérusalem, mais simplement, évidemment, ça supprime un obstacle aux conversions des Juifs, parce que vous savez, nous le savons depuis le premier voyage, que la mission s'adresse d'abord aux Juifs et ensuite aux païens, et la circoncision de Timothée, qui est un disciple très cher à saint Paul, sera un élément qui facilitera justement l'approche des Juifs et leur évangélisation au cours de ceux qui écouteront et qui donneront leur foi à la parole de l'Évangile dans les différentes communautés qui seront rencontrées au cours de ces voyages. Alors, pourquoi, alors que la logique aurait voulu qu'on visite la Bithynie et le pont après la Galatie, pourquoi on bifurque vers la Macédoine? Le chapitre 16 nous le dit au verset 6, « Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, donc la Mysie, c'est la région qui correspond au sud de la mer de Marmara, là, actuellement. Ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Troas, donc, c'est une cité portuaire sur la mer Égée. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et le supplia « Passe en Macédoine, secours-nous ». Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alors, le « nous » qui est employé par Saint-Luc montre qu'il était présent, il faisait partie donc des compagnons de Saint-Paul. Alors, on va ensuite, on embarque à la cité portuaire de Troas, on traverse à peu près 240 km de mer dans la mer Égée et on se dirige vers la côte macédonienne, vers Néapolis, par la mer. Et ensuite, on va emprunter la voie ignatienne ou ignatienne. C'est une voie romaine qui va traverser toute la Macédoine et qui va déboucher sur l'Adriatique en direction de l'Italie. Donc, la troupe apostolique s'arrête, quitte Néapolis, s'arrête à la cité importante, la première grande ville de Macédoine qu'il traverse, qui est la ville de Philippe. Comme à l'habitude, on va rechercher la communauté juive qui s'y trouve, et on va lui annoncer l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Alors, vous savez que ça correspond à deux nécessités, ça. D'abord, comme je l'ai dit, Paul annonce aux Juifs que la promesse, les promesses contenues dans l'Écriture, sont accomplies en la personne du Christ ressuscité. Mais en même temps, parce que dans les synagogues, il n'y avait pas que des juifs, il y avait les prosélytes, donc ceux des païens qui étaient entrés dans le peuple juif par la circoncision, et il y avait les craignants Dieu. Donc, le fait d'aller dans les synagogues permettait également d'approcher les craignants Dieu, ceux des païens qui étaient attirés par la foi monothéiste, par la foi de Moïse, mais qui n'avaient pas reçu la circoncision, donc qui n'étaient pas entrés dans le peuple juif, qui était encore à la périphérie, mais qui fréquentaient néanmoins les synagogues, leurs prières et leurs enseignements. Donc, on ne sait pas, le texte est très lapidaire, on ne sait pas combien de temps a duré le séjour à Philippe, mais on peut penser qu'il a duré un certain temps si on se reporte à l'épître aux Philippiens, la lettre aux Philippiens qui sera envoyée par saint Paul. Il y a trois événements importants qui concerne cette visite à Philippe, à la ville de Philippe. C'est d'abord la conversion de Lydie. Lydie est une riche prosélyte juive. On voit ça en 16, 14, 15. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire. La ville de Thyatire était une ville de tisserands qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa maison, elle nous invita en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle nous pressa d'accepter. Alors là, il y a deux emplois du mot maison. Elle est baptisée avec toute sa famille. Hein. Et la maison, le logement. Donc ça, c'est très important, parce qu'on reverra Lydie à plusieurs reprises. Elle aidera l'apôtre Paul de ses biens, comme l'épître de Saint Paul aux Philippiens, au chapitre 4, en rend témoignage. Il y a ensuite l'exorcisme d'une esclave qui s'exerçait aux arts divinatoires et qui était exploitée par des maîtres sans scrupules, et donc lesquels maîtres en tiraient profit, bien sûr, hein, c'est 16-18. Et évidemment, ces maîtres, se voyant privés d'une source de revenus après la guérison de la jeune esclave possédée, eh bien, soulevèrent la foule contre eux. La troupe apostolique est rouée de coups et ils sont jetés en prison. Et voici que donc Paul et Silas, alors le verset 25 nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison furent ébranlées. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent détachés. Donc, évidemment, le gardien qui devait répondre devant les autorités des prisonniers va pour se tuer, mais l'apôtre Paul ne lui dit « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Et devant ce miracle, évidemment, le gardien dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et donc là-dessus, il lui annonce la parole du Seigneur, et le gardien ainsi que toute sa maison reçoivent le Saint-Baptême. Alors là, il y a une notation intéressante, c'est que Paul dit qu'il est citoyen romain, donc Paul et Silas sont citoyens romains, donc ils ont été battus alors qu'ils auraient dû être jugés et non pas fouettés. Et donc on leur fait des excuses, on les libère et on leur demande de quitter la ville, ceci pour ne pas avoir d'ennui, parce que ceux qui se sont livrés à ces exactions sur les apôtres, eh bien, ont transgressé la loi romaine. Alors, ensuite, quittant la ville de Philippe, Paul et Silas et ceux qui les accompagnent vont se diriger vont traverser Amphipolis et Apollonie et vont se diriger vers Thessalonique. Thessalonique est environ à 150 km de Philippe, et c'est une localité très importante parce que c'est la capitale administrative de la province de Macédoine. Hein ? Province romaine de Macédoine. Et de Philippe à Thessalonique, et bien sûr, on emprunte la voie ignatienne. À Thessalonique, il y a une très importante communauté juive, il y a de nombreux prosélytes et de nombreux craignants Dieu. Donc, comme à l'accoutumée, Paul va s'adresser d'abord aux Juifs, mais le livre des Actes nous dit que sa prédication auprès des Juifs, qu'il donne environ pendant 3 sabbats, et il discute avec eux pendant ces 3 sabbats à partir des Écritures, parce que il démontre toujours, nous avons vu comment est construit son annonce kérigmatique destinée spécifiquement aux Juifs, c'est-à-dire que il démontre que la venue du Christ, sa mort et sa résurrection, le salut qu'il apporte, était contenu dans les promesses de l'Écriture. Et apparemment, cette annonce, ces discussions sur 3 sabbats successifs, ne portent que peu de fruits. Peu de Juifs se convertissent. Par contre, c'est au verset 4 du chapitre 16, il nous est dit qu'ils furent quelques-uns d'entre eux furent convaincus, donc ça c'est les Juifs, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de Grecs, donc de païens, qui craignaient Dieu, et beaucoup de femmes importantes. Alors ça va entraîner la colère des Juifs, mais les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason, donc qui est un chrétien qui héberge Paul et Silas, et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Là-dessus, ils ne vont pas les trouver, donc ils vont amener Jason vers les magistrats, et en disant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur et disent qu'il y a un autre roi, Jésus. » Tiens, ça nous rappelle quelque chose du côté du prétoire de Pilate. Donc il y a une hostilité déclarée des gens de la synagogue. Alors, là aussi, Luc passe très vite, parce que son objectif, là, n'est pas de faire une histoire très détaillée, mais de montrer, comme toujours dans les actes qui sont, je le rappelle, le livre des actes du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit infailliblement les apôtres, eh bien, l'objectif du livre des actes, c'est bien de montrer l'expansion de l'Évangile. Donc, on ne sait pas combien de temps, là aussi, comme à Philippe, le séjour va durer. On peut supposer quand même qu'il a pris un certain temps, si l'on se rapporte aux différentes instructions qui sont laissées dans la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens. On va voir également quelque chose d'important. C'est l'instauration d'une hiérarchie dans la nouvelle communauté, non pas dans le livre des actes, mais dans la première aux Thessaloniciens 5, versets 12 et suivants. Voilà, ensuite, on continue le périple. Paul et Silas et ceux qui les accompagnent se rendent de Thessalonique à Bérée. Bérée, donc, c'est dans le sud de la Macédoine. C'est non loin de la côte de la mer Égée et c'est à environ à 80 km de Thessalonique. Là, au contraire de Thessalonique, la prédication va être bien reçue par les Juifs, mais néanmoins, ah oui, j'ai oublié de vous dire que Silas et Timothée vont rester un temps à Thessalonique pour consolider la fondation de l'église de Thessalonique. Alors à Bérée, Eh bien, comme d'habitude, il va y avoir des discussions avec les Juifs qui vont contrôler l'exactitude du message par le contenu des Écritures. Et évidemment, ils ont un maître en face d'eux, parce que Paul, qui fut l'un des fils spirituels du rabbin Gamaliel, connaissait parfaitement les Écritures de l'Ancien Testament. Alors, il est dit, justement, donc à Bérée, quand Paul et Silas vont être à Bérée, que dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup crurent, ainsi que parmi les Grecs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes, donc de femmes de la haute société, visiblement. Ensuite, là aussi, pas d'indication sur la durée du séjour dans la ville de Bérée. Ensuite, les apôtres vont être obligés de quitter Bérée parce que les Juifs de Thessalonique, qui s'étaient montrés assez hostiles dans l'ensemble, apprenant que Paul annoncer la parole de Dieu à Bérée, eh bien, vinrent pour, nous disent les actes, agiter et troubler la foule. Donc, Paul part du côté de la mer. On ne sait pas exactement, on n'a pas de certitude, hein, si il a voyagé par mer, mais c'est probable. Et on nous dit simplement qu'il part du côté de la mer et il va faire une partie du parcours en longeant la côte par mer en direction d'Athènes. L'objectif, c'est d'aller à Athènes. Et là, Silas et Timothée restent encore à Bérée, là aussi pour consolider le travail apostolique entrepris, et ils vont rejoindre, nous dit saint Luc dans les Actes, rejoindre Paul au plus tôt, donc à Athènes. Le séjour à Athènes, donc Bérée, Athènes, c'est environ 420 km, quelque chose comme ça. Est décrit dans le chapitre 17, verset 16, 21. Dans une première partie, et ensuite de 22 à 33. Alors bon, ce récit, c'est un récit extrêmement célèbre, hein, puisque Athènes, d'abord, évidemment, politiquement, la ville d'Athènes avait beaucoup perdu de son prestige, elle n'était plus capitale de la province de Grèce. Hein. Il ne faut pas oublier qu'en ce temps-là, la Macédoine et la Grèce sont deux entités politiques distinctes. Donc, elle avait perdu de son influence politique, mais elle restait le plus grand centre, ô combien rayonnant, de l'hellénisme païen, de la philosophie grec, hein, un grand centre rayonnant, hein, des grands noms de l'Église y étudieront, notamment les Cappadociens, Grégoire le théologien, Basile le Grand, seront dans leur prime jeunesse étudiants dans une école chez un recteur grec à Athènes. Donc il y a un grand prestige dans cette ville. En même temps, c'est un centre spirituel de l'hellénisme païen. D'après le texte du du chapitre 17 à partir du verset 16, on voit que dans la ville, il y a un très grand nombre de divinités qui y résident. Il y a partout des statues, des temples, des autels aux différentes divinités païennes, ce qui irrite profondément d'ailleurs l'apôtre Paul. Son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les païens qui croyaient en Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Donc, comme à son habitude, il va à la synagogue, et puis c'était une habitude des Athéniens de discourir sur la place publique. Tant étaient nombreux les systèmes philosophiques et les écoles qui propageaient ces systèmes. Et là, on voit qu'il rencontre, verset 18 nous dit, « Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. » Donc, voilà, il est sur la place publique et il parle avec qui veut l'entendre. Donc, il annonce, il est toujours dans la perspective de l'annonce kérigmatique. Ça ne le quittera jamais, jusqu'à Rome, ça ne le quittera jamais. Du moins, les actes en rendent un témoignage précieux sur ce plan-là. Et il rencontre des épicuriens et des stoïciens, qui sont les deux grandes écoles très en vogue à ce moment. Et voilà, les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il prêchait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, il attire l'attention des philosophes, mais vous avez vu que finalement, il fait l'objet du mépris. On le traite de on dit discoureur dans les traductions françaises. En fait, c'est le terme grec, c'est spermologos, ramasseur de graines. Donc, c'est tout aussi méprisant finalement. Et puis, les uns le traitent de ramasseur de graines, et les autres, croient qu'il annonce un nouveau couple divin. Les couples divins étaient très à la mode. Donc, Jésus et Anastasis. Pour eux, Anastasis, la résurrection, ceux des philosophes qu'ils rencontrent comme ça, prennent ça pour une divinité, une déesse, qui serait en couple avec Jésus. Voilà. Donc, il fait l'objet du mépris de ces gens, mais néanmoins, ces mêmes gens lui demandent de venir s'expliquer plus avant sur les choses étranges qu'il fait entendre. Au verset 19, il est dit « Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu nous apportes ? Car tu nous as fait entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Donc, là-dessus, il est conduit à l'Aréopage, qui est une petite colline voisine de l'Agora et du Panthéon. Et il va tenir son fameux discours à l'Aréopage, qui aujourd'hui encore est gravé sur une plaque, justement, devant la colline de l'Aréopage, est gravé le discours que saint Paul prononça. Ce discours-là, évidemment, qui est une annonce kérigmatique également, mais selon des modalités différentes que l'annonce kérigmatique aux synagogues dans lesquelles saint Paul va entrer au long de ses voyages. Parce qu'on ne parle pas de la même manière à un public juif et à un public païen. On annonce la même chose. Il n'y a pas de différence quant au fondement de l'annonce et à ce qui est annoncé, mais on emprunte des chemins différents, et c'est compréhensible. Hein. Parler à des païens de l'accomplissement de les Écritures d'entrée de jeu, c'est s'interdire toute compréhension de leur part, puisqu'ils ne connaissent pas les Écritures. Donc à partir du verset 22, au chapitre 17, on voit Saint Paul s'exprimer. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve en tout point de vue extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » C'est un préambule du discours qui est très habile. Il se met vraiment à la portée de ses auditeurs et il loue leur sentiment religieux, bien que leur sentiment religieux est complètement dévié, dévoyé, puisqu'il va vers le paganisme, mais il existe, dit-il. Et donc il vient leur annoncer le Dieu inconnu qui a son autel dans la ville. Et il leur dit, et là donc commence l'exposé proprement dit, qui va du verset 24 au verset 28, il leur dit que ce Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Et donc, comme tel, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu, en parlant des hommes, qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ça, c'est une citation de poète du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est très habile de la part de saint Paul de citer Épiménide de Knossos et Aratos de Cilicie. Vous êtes de la race des dieux. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent et à la pierre sculptés par l'art et l'imagination des hommes. Donc là, on passe à une dénonciation très ferme du paganisme fabriquait des idoles et Paul, après cette dénonciation ferme, invite les païens au repentir. Parce que, dit-il, il a fixé un jour où il jugera, parlant de Dieu, il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc l'homme qu'il a désigné, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité. Et là, donc le discours est interrompu, en fait, par ceux qui l'entendent à l'agora. Parce que là, la suite logique de cette annonce kérigmatique aurait été de parler du Verbe de Dieu incarné et de la mission qu'il a accomplie en faveur des hommes, en accomplissant le dessein de Dieu, et en parlant de la résurrection d'entre les morts. Mais Il est interrompu. On lui dit, nous t'entendons là-dessus une autre fois. Parce que, évidemment, là, ils ont compris que, à ce niveau-là, quand ils parlent de la résurrection des morts, ce n'est plus Anastasis confondu avec une espèce de déesse qui aurait formé un couple avec Jésus, mais c'est la résurrection des corps, quelque chose qui est tout à fait inimaginable pour eux, parce que la chair étant vue comme une prison de l'esprit, est considérée comme méprisable. Donc la résurrection des corps est quelque chose qui est de l'ordre de l'impensable pour les auditeurs en question. Et le récit se termine par le verset 34 qui dit « Quelques-uns cependant se joignirent à lui, à Paul, et crurent, Denis l'Aréopagite, une femme de nom de Damaris, et d'autres avec eux. » Donc là, je rappelle que c'est, bon, d'abord, c'est quelque chose de tout à fait connu et célèbre, ce discours aux Athéniens, mais on a le modèle type de l'annonce kérigmatique aux païens. Comme Pierre l'avait fait précédemment, nous avions vu dans les chapitres précédents également, Pierre utilisait également des paroles différentes pour parler du kérigme aux païens, différentes de celles qu'il utilisait pour les juifs. Ça, c'est un schéma fondamental qu'on retrouve toujours dans les actes, qu'il s'agisse des discours de Pierre ou qu'il s'agisse des discours de Paul. Il est dit dans la première aux Corinthiens d'ailleurs que Athènes, constatant le relatif échec de cette annonce, Athènes se ferme parce qu'elle croit posséder la sagesse suffisante. Mais néanmoins, nous avons vu, il y a tout de même quelques convertis. Après cela, donc, le voyage continue. Et d'Athènes, Paul se rend à Corinthe. Corinthe est environ à une petite centaine de kilomètres d'Athènes. Étant rejeté donc par l'élite païenne d'Athènes, Paul va se diriger vers Corinthe. Corinthe, c'est une cité très importante parce que c'est à ce moment-là, elle, qui est la capitale de la province d'Achaïe, donc qui est la capitale administrative de la Grèce continentale. Comme telle, elle est le siège d'un proconsul, et évidemment, c'est une cité qui est très peuplée, où règne la corruption, et c'est une cité qui est riche, parce que, de par son emplacement, il y a un trafic commercial extrêmement important. Son port est vraiment, en quelque sorte, un lien entre les voies maritimes commerciales qui vont vers l'Occident et celles qui vont vers l'Orient. Donc Paul va s'arrêter chez un homme qui s'appelle Aquilas et sa femme Priscille, qui sont des tisserands. Il va s'arrêter donc chez eux et Il va se lier d'amitié avec eux et il va travailler chez eux, puisque je rappelle qu'il fabrique lui aussi des tentes pour gagner son pain et ne pas être à la charge des communautés. Non seulement il voyage partout guidé par le Saint-Esprit et il annonce avec force et sans peur l'évangile du Christ, mais il n'est jamais à la charge des communautés. Il travaille de ses mains. Ça, c'est une caractéristique que l'on trouve dans tous les actes. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Donc il y a un édit de l'empereur Claude, en 49 ou 50, qui expulse les juifs de la ville de Rome. Alors comme à son habitude, il va prêcher lors d'un sabbat, il va prêcher à la synagogue. Et nous dit les actes, persuadé des juifs et des grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, il attestait aux Juifs que Jésus est le Christ. Mais là, il reçoit un très mauvais accueil. Les Juifs s'opposent à lui et l'injurient. Et bon, il est chassé de la synagogue, de sorte que il va être obligé de trouver un local qui d'ailleurs est presque à côté de la synagogue, et dans ce local qui est prêté par je ne trouve plus le nom, ah oui, le nom dont il est cité, Titus Justus, donc qui est un craignant Dieu, lui prête cette maison qui est contiguë à la synagogue, nous dit le chapitre 18. Et là, donc, il va prêcher et enseigner les craignants Dieu et évangéliser les païens. Il va rester quand même un certain temps, plus de 18 mois. Enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. On nous dit également que le chef de la synagogue, Crispos, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Alors bien que l'essentiel des Juifs de la synagogue le rejetèrent, le chef de la synagogue, lui, va se convertir. Alors, avec l'avènement du proconsul Gallion, il y a un soulèvement des Juifs contre Paul et ils vont le mener devant le tribunal en disant « Cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi ». La première aux Corinthiens nous dit que Paul avait quelques craintes après son échec d'Athènes et la première aux Corinthiens nous donne des renseignements que les actes ne nous donnent pas, nous renseigne sur les activités de Timothée, sur le fait que la majorité des convertis appartiennent à des milieux modestes, bien qu'il y ait des dames bien nées qui en fassent partie, et nous renseigne également, nous le savons tous, sur les querelles et les problèmes qui surgiront dans l'église de Corinthe. Donc, fidèle à sa perspective, Luc ne nous donne pas de renseignements précis sur ces questions-là, parce que lui, il tient à marquer les principales étapes de l'expansion de l'Évangile à travers l'Empire. L'Évangile qui part de Jérusalem et qui gagnera Rome plus tard. Et ben, d'autre part, comme les actes sont écrits pendant la captivité romaine de Paul, eh bien, Luc n'éprouve pas le besoin de répéter ce qui est écrit dans les épîtres pauliniennes, qui sont connues dans les communautés. On lit dans les assemblées liturgiques, on lit les épîtres pauliniennes. Donc, ces faits et gestes sont connus, en fait. Il y aura donc la comparution de Paul et de Silas devant Gallion, le proconsul de la province d'Achaïe, et où l'on voit d'ailleurs que Gallion ne distingue pas encore entre le judaïsme et le christianisme, et les plaignants, les juifs qui sont les plaignants, seront déboutés. Ensuite, donc reportez-vous encore à la carte, c'est la fin du deuxième voyage missionnaire. Donc, on va embarquer au port de Corinthe, s'ancrer, et on va aller en direction d'Éphèse, et d'Éphèse, donc, revenir vers Césarée maritime, par la mer. Effectuer une visite rapide à Jérusalem et revenir vers Antioche. À partir, donc je passe assez rapidement, il faut se reporter en détail au texte. À partir du chapitre 19 commence donc. Oui, il faut signaler que au chapitre 18, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28, apparaît un autre personnage important pour la suite, c'est Apollos, qui est enseigné à Éphèse. Il est dit « Un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse ». Donc là, Paul, qui désire de longue date aller à Éphèse, et on verra plus tard qu'il s'y rendra, là, ne va pas s'y arrêter. Hein. Très brièvement, c'est l'objet d'un voyage ultérieur. « C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. » Donc, il appartenait probablement à un groupe johannite de Jean-Baptiste. Il y avait encore des gens de ce groupe. Et il prêche, mais il ne connaît pas encore le baptême du Christ. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue, à Éphèse donc. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux, lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc il est enseigné par Aquilas et Priscille. On va le retrouver. Hein. Donc, ensuite commence, après le retour que j'ai décrit, commence le retour à Antioche, le retour final à Antioche, commence le troisième voyage missionnaire. Troisième voyage missionnaire qui est décrit à partir du chapitre 19. qui commence en 53 ou printemps 54 et qui finit en l'an 58. Qui va d'Antioche avec un retour à Jérusalem où Paul sera emprisonné. Alors on se reporte là aussi à la carte des voyages missionnaires de saint Paul, troisième voyage. Donc d'Antioche, on repasse par Tars, Derbé, Lystre, Iconium, Antioche de Pisidie. On va passer donc par Smyrne, Pergame, Mytilène. On reprend la mer direction de Néapolis. Alors attendez, c'est parce que c'est un peu compliqué sur la carte, je vais être un peu plus détaillé. Donc là, l'objectif, c'est Éphèse. Paul rencontre d'abord les disciples de Jean-Baptiste. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arrive à Éphèse. Donc oui, reportez-vous à la carte pour voir précisément le chemin qui passe par... D'abord par des lieux qui avaient déjà été évangélisés. Et on retraverse la mer en direction de Néapolis. Ensuite, on revient à Mytilène, Chios. Et on va vers Éphèse. L'objectif de ce voyage, c'est bien sûr Éphèse, où Paul va rester pendant 3 ans. Mais auparavant, la notation que j'avais commencé à lire, je la poursuis. Donc, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils leur répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Donc il s'agit du baptême du Baptiste. Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance et il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Christ. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il y avait en tout 12 hommes environ. Donc, c'est le baptême d'eau et d'esprit, et c'est donc là l'imposition des mains, c'est la forme première de la chrismation. Et comme tous ceux qui ont reçu l'esprit avec le saint baptême, eh bien, ils se mettent à parler en langue et à prophétiser devant les différentes personnes qu'ils seront amenés à rencontrer. Donc là, dans ce voyage-là, l'accent, il est porté donc sur Éphèse, parce qu'il y a longtemps que Paul voulait se rendre à Éphèse. Bien sûr, sur le parcours, il revoit des églises déjà fondées en Galatie et en Phrygie, mais les événements principaux du troisième voyage, c'est à Éphèse qu'il se déroule. Et là, bon, donc il est souligné plusieurs choses par saint Luc dans l'exercice du ministère paulinien à Éphèse. Il nous est dit que, comme à son habitude, hein, il entre à la synagogue, Saint Paul. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu. Il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors, il les quitta, prit des disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Et le récit se poursuit en nous disant que même des exorcistes juifs s'y exercèrent sans succès en prétendant guérir avec le nom de Jésus-Christ, mais sans la foi qui doit en être également. Donc voilà, après avoir souligné la supériorité du baptême chrétien sur le baptême de repentance qui était donné par le Baptiste et ses disciples, Saint Luc attire notre attention sur le fait que, eh bien, sur les cœurs endurcis, le message évangélique ne pénètre pas, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, Saint Paul prend acte et se détourne et va vers les craignants Dieu et va vers les Grecs, donc vers les païens. Et de là, il va enseigner, il va trouver cette école d'un dénommé Tyrannus, nous disent les Actes, et il va enseigner durant 2 ans. Et là, l'évangile va se répandre par capillarité très loin, finalement. De très nombreux disciples vont répandre l'évangile, vont recevoir d'abord l'évangile et le répandre à leur tour dans les cités, dans toute l'Asie mineure, nous dit Saint Luc. Donc Éphèse, c'est une ville très importante, là aussi, hein, comme Corinthe dans la province d'Achaïe. C'est la province d'Asie dite proconsulaire. C'est également une grande ville commerciale qui a un port sur la mer Égée. Et c'est un nœud routier qui relie l'Europe au Proche-Orient. En plus, c'est une ville religieuse païenne très importante. C'est là qu'il y avait le temple de Diane Artemis, et qui est la déesse de la fécondité, et lequel temple faisait l'objet de très nombreux et très importants pèlerinages. Paul à Éphèse va retrouver Aquilas et Priscille, qui sont venus de Corinthe, eux aussi sont très pérégrinants, et qui lui apprennent la conversion d'Apollos. Et il y aura d'ailleurs dans la première épître aux Corinthiens un éloge du zèle apostolique d'Apollos. Il va y avoir donc, ensuite de cela, une émeute. On voit aussi qu'il y a une notation avant l'émeute. les actes décrivent quelque chose de très important. Bon, la magie était très en honneur dans les pratiques païennes. Et on voit que beaucoup de croyants vont apporter leurs livres de magie et les brûlèrent devant tout le monde. Alors, comme le nombre des disciples du Christ par la prédication de saint Paul va grossir de manière très significative, va se répandre au-delà, à Laodicée, à Hiérapolis, à Colosse et ailleurs, évidemment, ça va porter atteinte au commerce lucratif des orfèvres qui travaillaient pour le temple de Diane Artemis en faisant tout un tas d'objets en argent qui étaient acquis par les pèlerins. Et comme le nombre des disciples de Jésus-Christ grandissait, en ville et dans toute la région, eh bien ce commerce va connaître une décroissance significative et les orfèvres vont provoquer, les orfèvres et leurs employés vont provoquer une émeute contre l'apôtre. Et quelque chose qui est intéressant à citer, que je retrouve. Donc on excite, les orfèvres vont exciter bon nombre de gens contre l'apôtre. Et la foule va crier, grande est l'Artémis des Éphésiens. Néanmoins, donc, l'un des magistrats de la ville va calmer la foule des émeutiers et va dire que, bon, il ne faut pas se précipiter, qu'il faut qu'il y ait une plainte et qu'il y ait une assemblée légale qui juge de la situation, parce que les émeutiers, ne pouvant justifier l'attroupement qu'ils ont fait, encouraient une condamnation. Bon, donc ça va calmer temporairement les choses, et l'assemblée des émeutiers va se disperser. Ce qui va permettre à Paul de partir pour la Macédoine, donc où il va séjourner 3 mois, donc il va revisiter des églises qui avaient été constituées, il va les fortifier dans la foi, et à l'issue de ces 3 mois, alors qu'il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, il apprend qu'il y a un complot des Juifs contre lui, et nous dit le livre des Actes, il décida de partir par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Bérée. Et là, on nomme ses compagnons. C'est la première fois qu'on nomme ses compagnons de voyage. Fils de Pyrrhos, Aristarque et Segundos de Thessalonique, Gaius de Derbé, Timothée, ainsi que Tychide et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Donc Luc est là aussi, puisqu'il y a la première personne du pluriel. De notre côté, après la fête des pains sans levain, c'est la fête des Asines, donc les jours de la Pâque, nous avons embarqué à Philippe et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas et nous avons passé 7 jours. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, parce que il y a la description d'une assemblée liturgique. Il y a des éléments, plus exactement, de la description d'une assemblée liturgique avec la résurrection de Tychos. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc c'est la fraction du pain. On avait vu ça déjà dans le chapitre 2. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme de Tychos, qui était assis sur le bord de la fenêtre, s'endormit profondément devant le long discours de Paul. Donc la fraction du pain, elle a lieu le samedi dans la nuit. Vous savez que la journée commence à vêpres, donc c'est le commencement du jour du Seigneur, du dimanche, le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. Et donc il y a une instruction et il y a la fraction du pain. Pendant, on trouvera donc dans les Corinthiens quelque chose de beaucoup plus détaillé là-dessus, mais on a déjà une première description là qui est intéressante dans ce récit. Pendant l'enseignement de Paul a dû être assez long, il devait faire chaud dans la chambre haute où les disciples sont rassemblés parce qu'il y a beaucoup de lampes allumées, il y a beaucoup de monde. Et un jeune homme s'endort, il est sur le bord de la fenêtre, il tombe de 3 étages. Quand on le relève, il est mort. Et Paul va le ressusciter. Le jeune homme fut ramené vivant à leur grande consolation. Puis il s'adresse aux anciens d'Éphèse. Donc il y a dans ces communautés donc des anciens qui ont en charge du gouvernement de l'Église. Et il leur dit « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les Grecs, à la repentance envers Dieu et à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, il leur dit qu'il est lié par l'Esprit, qu'il va partir à Jérusalem, donc il annonce déjà, il pressent par l'Esprit que les souffrances l'attendent. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent, mais je n'y attache aucune importance, et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et là, il leur dit, donc, désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang, que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme épiscope, donc surveillant, évêque. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs s'élèveront des hommes qui enseigneront des choses mensongères pour entraîner les disciples à leur suite. Veillez donc et souvenez-vous que durant 3 années, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Donc il y a des anciens, les presbytéros, et il y a les surveillants, les intendants, les épiscopes, qui ont en charge les communautés. Non seulement l'apôtre annonce l'évangile, crée des églises, mais il ordonne également des successeurs pour veiller donc sur le troupeau du Christ, et il leur confie ce troupeau du Christ en appelant à leur vigilance, car des loups menacent le troupeau. Et on sait par la suite que cette parole ne fut pas vaine. Voilà, après ces adieux à l'église d'Éphèse, il faut quand même revenir quelques instants sur la structure de ce discours d'adieu, hein, qui est en trois parties. Paul évoque ses trois années à Éphèse, les souffrances dont il va faire l'objet, il en est averti par l'Esprit, et les responsabilités qui imposent à ceux qui ont la garde du troupeau, aux anciens, aux presbytres et aux épiscopes, les intendants, les surveillants. Ensuite, il va de Milet à Jérusalem. Il retourne à Jérusalem. Donc là, par contre, Luc est très très précis. Il nous dit, après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Chios, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et nous sommes partis. Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissée à gauche, poursuivant notre route, du côté de la Syrie pour aborder à Tyr, où le bateau devait décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux, poussés par l'Esprit. Les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque les 7 jours ont été passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'en dehors de la ville. Donc là-dessus, ils arrivent à Tyr, passer par Tyr et arriver à Ptolémaïs. Nous avons salué les frères et passé un jour avec eux. Repartis le lendemain donc pour Césarée maritime, entrer dans la maison de Philippe, donc vous vous souvenez, hein, le diacre Philippe, qui était l'un des 7, où nous avons logé chez lui, et ils vont cheminer donc vers Jérusalem. Paul est informé, alors Paul amène aussi, hein, je ne veux pas oublier, qu'il amène une collecte pour les pauvres de l'église de Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, il va visiter les chefs de l'église, le collège des presbytres et Jacques, évêque de Jérusalem. Il rend compte de son activité missionnaire. Il est informé également de la mentalité judaïsante qui règne dans l'église de Jérusalem. Autrement dit, ce qui est affirmé au chapitre 15, vous savez, la lettre des apôtres assemblés avec leurs disciples en synode à Jérusalem, réglant la question des relations entre les pagano-chrétiens et les judéo-chrétiens, et bien tout ça prend beaucoup de temps pour passer dans les faits, au moins dans certains secteurs de l'église mère de Jérusalem, à tel point, nous dit le livre des Actes, que l'apôtre devra faire des concessions sur ce plan. Ensuite, Paul va être arrêté. Il est allé au temple, tout à fait normalement, accomplir la prière. Il n'a pas prêché dans le temple, mais des juifs, donc, venus, parce que là, on est pendant la fête de Pentecôte, de Shavuot, Donc il y a beaucoup de monde au temple. Paul va y prier. Et il est reconnu par des juifs d'Asie mineure. En plus, on l'accuse d'avoir introduit, fait gravissime, un païen dans l'enceinte du temple. Et donc, on va l'arrêter. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandant de la cohorte que tout Jérusalem était dans le désordre. Bon, alors donc, on informe le commandant de la cohorte qui est dans la forteresse Antonia, donc à l'un des angles de l'esplanade du temple, et c'est à cela, finalement, que Paul doit la vie sauve, parce que, évidemment, il aurait été lapidé. Paul est accusé d'innovation religieuse par les Juifs, et à partir donc de là, on le voit au chapitre 22 s'adresser à la foule, après avoir demandé l'autorisation au tribun, s'adresser à la foule de ses accusateurs et se défendre. Là aussi, le discours est intéressant. Il parle de lui comme un juif par la naissance et par la formation, qu'il était zélé pour Dieu, qu'il appliquait rigoureusement la loi de ses pères, la loi de Moïse, qu'il s'est fait persécuteur des chrétiens et que suite à une intervention divine, eh bien, il a rencontré le Christ et il a embrassé la voie. Quand on parle de la voie, évidemment, c'est la foi chrétienne, c'est la foi dans le Christ Jésus, c'est c'est le christianisme. Il échappe à la flagellation, il va comparaître devant le Sanhédrin, il va se défendre, il y a une belle défense de sa part au chapitre 23, versets 1 à 11, lisez-le, devant le Sanhédrin, où d'ailleurs il dit que les chrétiens étant des citoyens paisibles, respectueux des autorités, sont en droit qu'on leur fasse justice. Et donc vous lirez la suite. Cette défense, elle est très habile parce que elle met de fait en opposition les deux parties du Grand Sanhédrin, les Sadducéens et les Pharisiens. Et comme il parle de la résurrection, évidemment, il met à son côté les Pharisiens. Il y eut une grande clameur et les scribes du parti des Pharisiens se levèrent et s'engagèrent avec force dans le débat en disant « Nous ne trouvons rien de mal en cet homme. » Et si un esprit ou un ange lui avait parlé, ne combattons pas contre Dieu. Donc, les pharisiens croyaient à la résurrection, contrairement aux sadducéens, comme nous le savons tous. Et en opposant sadducéens et pharisiens, eh bien, ça met un terme, l'opposition entre les deux parties du Sanhédrin met un terme à la comparution de saint Paul, finalement. Et ça fait que Paul confesse courageusement sa foi devant les Juifs de Jérusalem. Et là, il a une vision dans la nuit. Il est dit au verset 11 du chapitre 23, « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, Paul, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem. » Il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Son désir d'aller à Rome est ancien, mais là c'est confirmé par l'apparition du Seigneur lui-même. L'Esprit lui avait dit précédemment qu'il allait entrer dans les tribulations et les souffrances, d'abord à Jérusalem et ensuite à Rome. Alors, il y a des tentatives pour porter atteinte à la vie de saint Paul, qui va être transféré à Césarée, bon, qui est la capitale du procurateur, hein, au procurateur Félix d'abord, puis lequel aura un successeur. Il ne va pas rester longtemps, Félix. Ensuite, son successeur sera Festus. Félix est connu pour sa brutalité, pour sa cupidité, et il va garder Paul prisonnier pendant 2 ans, sans même instruire un procès, qui va quand même finir par arriver. Mais en quelque sorte, c'est la cupidité de Félix qui va sauver Paul, comme quoi le Seigneur se sert de tout en vue du bien. Parce qu'évidemment, les Juifs réclament avec insistance le retour de saint Paul à Jérusalem et veulent le rejuger, disent-ils. Ils veulent instruire plus avant son affaire, et le Sanhédrin demande le retour à Jérusalem, mais ils ne l'obtiendront pas. Et de ce fait, leur guet-apens va échouer, parce qu'ils voulaient purement et simplement l'assassiner en route. Donc il y aura le témoignage de saint Paul devant Félix. Quand Félix est destitué par Néron, donc le procès va reprendre devant Festus, et Paul en appellera à César. Là-dessus, le roi Hérode Agrippa II, qui est le petit-fils d'Hérode, entend également, et qui est un ami personnel de Néron, donc entend également saint Paul, mais ni Festus ni Hérode Agrippa ne trouvent d'accusation apportée contre saint Paul. Son discours reprend la même trame finalement que le discours précédent, donc au chapitre 26, hein, il reparle de son passé juif, de sa conversion et de sa mission aux païens, de l'accomplissement de sa mission. Et ce discours rencontrera une réaction favorable du proconsul Festus. Donc, comme il en appelle à l'empereur en tant que citoyen romain, eh bien, il va être conduit à Rome. Il va donc s'embarquer à Césarée. Le voyage va être assez agité. Le bateau va échouer sur les rivages de l'île de Malte suite à une tempête de 14 jours. C'est très intéressant de lire toute cette partie, où on voit toute l'assurance de l'apôtre des nations, hein, au chapitre 27, les versets 1 à 44. Et il aura une relative liberté, hein, le centurion Julius, qui est chargé de veiller sur lui, puisque Paul est prisonnier, lui permettra d'être accompagné par des disciples, de visiter les églises aux escales, et il ira même jusqu'à lui sauver la vie, au verset 43. Luc est du voyage jusqu'à Rome. Donc la troupe apostolique, après un hivernage à Malte, décrit au chapitre 28, verset 1 à 15, où il nous est dit que les Maltais, qui sont des polythéistes, vont prendre Paul pour un dieu, puisqu'il ne meurt pas d'une piqûre de vipère. Mais les naufragés sont bien accueillis pendant l'hiver 60-61. Et au printemps 61, ils vont reprendre leur cheminement vers Rome en passant par Syracuse et en gagnant le golfe de Naples. Et après, la route de Rome par la voie appienne. Et là aussi, le centurion Julius permet à Paul de rencontrer les chrétiens qu'il croise sur la route. Le livre des Actes s'achève sur la captivité romaine et le ministère de Paul à Rome, donc au chapitre 28, les versets 16 à 31. Notons que les rapports suite aux accusations qui avaient été portées contre Paul, aux différentes accusations qui avaient été portées contre Paul par les Juifs et le Sanhédrin, les rapports de Festus et de Julius lui sont favorables. On lui accorde un logement qui est gardé par un soldat, et pendant 2 ans, jusqu'en 63, il a la possibilité d'exercer l'apostolat. Il est vraiment intrépide. Il continue son apostolat. C'est pendant cette captivité romaine, d'ailleurs, que les actes sont rédigés par saint Luc. Et il s'entretient avec les chefs des Juifs et avec la nombreuse colonie juive romaine. Et il prêche l'évangile partout. Il prêche l'évangile. Et là, évidemment, la finale des actes est extrêmement lapidaire, mais elle rejoint la finale de l'évangile de Luc, qui cherche à nous décrire quelque chose de très important, c'est que finalement tout ce cheminement de la prédication des apôtres depuis la Pentecôte à Jérusalem jusqu'à l'annonce kérigmatique de Paul à Rome, eh bien, c'est l'expansion de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, du moins telle qu'elle était connue. Donc, l'Évangile va être porté au centre même de l'Empire. Sa proclamation à toutes les nations va être accomplie. Voilà, donc nous avons vu à travers ce parcours extrêmement rapide, bien sûr, qui est une invitation à une lecture très attentive du livre des Actes, nous avons vu l'expansion de l'Évangile, la prédication de l'Évangile par les apôtres, son expansion à travers tout l'Empire romain. Nous avons vu le passage de l'Église mère de Jérusalem, dans un premier temps composé seulement de judéo-chrétiens, à la naissance d'églises pagano-chrétiennes, la naissance de toutes ces églises en Asie mineure, en Macédoine, en Grèce et jusqu'à Rome, dont cette entrée dans l'Évangile, dans le grand corps social de tout l'Empire romain par capillarité. La foi chrétienne va se répandre très rapidement et atteindre toutes les couches de la société romaine. Et nous avons vu quelque chose de très important qui est toujours d'actualité, c'est la manière dont les apôtres proclament le kérigme. Comment, à partir d'une vérité fondamentale qui est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ils s'adressent aux différents publics qu'ils ont en face d'eux, les Juifs, les païens. De quelle manière ils annoncent le Christ ressuscité? Et de ce point de vue-là, les Actes des Apôtres nous donnent des modèles très intéressants qui concernent les chrétiens, finalement, de toutes les générations, sur la manière d'annoncer l'Évangile, sur la manière de s'adresser aux hommes et aux femmes auxquels nous sommes amenés à annoncer le Christ ressuscité. Alors, dernière chose, quand on lit les actes, on s'est aperçu à travers ce rapide parcours que les actes sont parfois lapidaires, on sait pourquoi, ça a été redit à plusieurs reprises, il faut toujours se reporter à ce qui est plus détaillé dans les différentes épîtres pauliniennes. Merci de votre attention.